Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, son ossature. Les regards des Congolais sont tournés à l'instant vers la Cour de cassation où un verdict est attendu. Il s'agit de celui de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministère public a demandé à la Cour de condamner Constant Mutamba à 10 ans de travaux forcés. L'ancien ministre est accusé de tentatives de détournement de 19 millions de dollars américains. Nous irons ensuite à Kisangani, où une grande marche de soutien à l'ancien ministre a été organisée par son parti et ses sympathisants ce matin. Nous dirons aussi un mot sur cet accident mortel. Une vingtaine de morts, c'est le bilan officiel d'un accident de circulation survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la route Mbujimayi-Lubumbashi à Sandoa, dans le Lualaba. Restez avec nous, nous en parlerons dans un instant. Et puis l'invité de ce journal s'appelle Rossi Ikanga, le chargé de communication de la concession communautaire de Mbandaka, va nous parler de la semaine de la foresterie communautaire qui vient de s'achever sur place. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'actualité de ces jours, c'est d'abord ce verdict attendu au procès contre Constant Mutamba à la Cour de cassation. Une présence massive des policiers est sur place pour sécuriser les lieux, selon notre reporter qui s'y trouve. Mais notez qu'à l'audience du réquisitoire, le ministère public a demandé à la Cour de condamner l'ancien ministre de la Justice à 10 ans de travaux forcés, assorti de 10 ans d'inéligibilité, après avoir purgé à peine des privations du droit à la libération conditionnelelle ainsi que son exclusion des fonctions publiques. Dans son réquisitoire, le ministère public tenait à ce que la Cour déclare à ce jour établie à charge de l'accusé l'infraction des tentatives de détournement des 19 millions de dollars et de les condamner. Le prévenu a eu à plaider non coupable, qualifiant son procès d'un complot politique. Reste maintenant à savoir si les juges, à l'issue de leur délibéré, vont aujourd'hui rencontrer toutes ces dispositions. D'autres détails dans ce reportage de Jeff Ngoïmo Londa, rendu par Alain Rungmouchi.
C'est effectivement dans quelques heures que les juges de la Cour de cassation vont se prononcer sur la condamnation ou l'acquittement de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba dans le procès qu'il oppose au ministère public sur le détournement présumé de 19 millions de dollars. En attendant le verdict, la salle d'audience est déjà remplie de monde, des avocats de la défense et des partisans du prévenu. À l'extérieur de la salle, on note une présence massive des policiers pour sécuriser la cour. Pour l'instant, tout est calme, aucun incident n'est à signaler. À la veille du verdict, un communiqué du procureur général interdisait toute manifestation des personnes arborant des effigies et scandant des slogans à la gloire du prévenu. Quiconque oserait menacer les magistrats se ferait arrêter par la police, avertit le ministère public.
En rapport toujours avec cette affaire de Constant Mutamba, nous le disions en titre, les membres de la fédération provinciale de son parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Nojek Tshopo et leurs sympathisants sont descendus dans quelques rues du centre-ville de Kisangani ce matin. Ils disent manifester pour montrer leur soutien indéfectible à leur autorité morale Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, à quelques heures du verdict de son procès par la Cour de cassation. Au terme de cette marche, ils ont lu un mémo adressé à la Cour de cassation. Un reportage de Jacques Moukonkole.
La marche des membres de la Nojek et leurs sympathisants est partie de leur siège en passant par l'hôtel Congo Palace, l'état-major de la 31e région militaire et la mairie pour aboutir à la place de la Poste. Pendant cette marche, ils ont arboré des drapelets, des calicots et autres banderoles à l'effigie de Constant Mutamba, scandant des chansons en son honneur. À l'esplanade de la Poste, le président interfédéral de la Nojek Tshopo a lu un mémo adressé à la Cour de cassation. Il y dénonce un acharnement politique à travers un procès qu'il qualifie de chiffon avant d'interpeller la Cour à rendre un verdict juste. Maître Patrick Kassendwe Milambo.
La Nojek Interfédération de la
Tshopo interpelle la Cour de cassation à rendre un verdict digne de consolidation d'un état de droit selon la vision du chef de l'État en acquittant pire et simplement Maître Costa Mutamba Tungunga, lui étant clairement du côté du droit. Ceci sera satisfaction de notre peuple pour redorer l'image de notre pays en face du monde.
Au terme de cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme, les manifestants ont regagné le siège de leur parti en attendant le prononcé. Jacques Mkongolé, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce drame survenu à Sandoa. Une vingtaine de morts, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans la nuit de lundi à mardi sur la route Mbujimayi-Lubumbashi dans ces territoires dans le Lualaba. Ce malheur est intervenu à la hauteur du village Mwinejungu dans la chefferie de Lumanga, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu du territoire sur les tronçons Sandoa-Kasaji. D'après l'administrateur du territoire de Sandoa, certains corps ont été enterrés hier mardi vu leur état. Jean-Augustin Tshijika attribue cet accident notamment à l'excès de vitesse. Il a été joint par Jean-Gandou Kabongo.
Le camion haut en provenance de Mbujimayi, à destination de Kolozi ou Lumbashi, je ne sais pas, a connu un accident à ce niveau-là. Les raisons, c'était l'excès de vitesse et l'ivresse au volant du chauffeur. Le bilan s'élève à 23 morts jusqu'à présent. On a ramassé hier 22. Tard dans la nuit, il y a un qui était grièvement blessé, qui s'est ajouté, avec une probabilité de trouver d'autres corps sous les camions qui restent encore couchés, parce qu'on n'a pas des moyens adéquats pour le relever et voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Le gouvernement provincial a dépêché quelqu'un qui est venu juste pour nous assister avec les cercueils, les linceuls, et l'enterrement a commencé aujourd'hui autour de 15 heures. Nous continuons demain avec d'autres corps. Notre frigo mortuaire a une capacité de 6 tiroirs. On a essayé de confiner les corps. On est allé jusqu'à 13, donc 12 grandes personnes et un petit bébé qui présentait vraiment un état pas tellement en décomposition. Ce sont ceux-là qu'on a conservés en attendant les familles. Mais ceux-là qui se décomposaient déjà, on vient de les enterrer aujourd'hui dans la chefferie de Lumanga.
Et puis ces cris de détresse de plus de 700 familles sinistrées par l'éruption du volcan Nyiragongo du 17 janvier 2002 à Goma. Elles n'ont jamais été installées sur les terres qui leur avaient été attribuées par les autorités. D'où ces cris de détresse. En tout cas, ces familles exigent leur installation sur les lieux promis. Il s'agit principalement des familles qui habitaient le quartier Les Volcans avant l'éruption. L'autorité provinciale avait alors distribué des terrains dans les quartiers Mugunga et le lac Vert aux sinistrés de tous les quartiers touchés par cette catastrophe. Si la plupart des familles ont pu occuper leurs nouvelles parcelles, celles du quartier Les Volcans en ont été chassées depuis 2017 par des pygmées se présentant comme autochtones de la zone. Qu'est-ce qui justifie la demande de ces sinistrés aujourd'hui? Réponse avec vous, Lievin Mwingavubu.
Ce sont au total 726 familles qui réclament justice depuis 2017 après avoir été chassées de leurs concessions par des autochtones. Au fil des années, plusieurs tentatives de retour sur leur site autorisées par les autorités ont été marquées par des affrontements qui ont malheureusement coûté la vie à certains d'entre eux. Selon Bibiane Luamira, chargée des affaires sociales au sein de l'association de ces sinistrés, leurs revendications ont été suspendues en raison de l'installation de certains déplacés de guerre.
En observant que les déplacés ont été déjà délocalisés, nous voulons regagner notre portion de terre, les deux avenues là, Lushagala et Lutande. Ce qu'il nous faut, il faut d'abord l'accompagnement de l'autorité, car nous sommes toujours dans l'insécurité et la peur d'être tués comme nos frères.
Maître Jean-Marie Vianney Bahati, avocat conseiller de l'association des sinistrés du volcan Nyiragongo de 2002, indique que la demande de ces familles se justifie par l'absence d'une solution durable à leur situation. Bien que l'éruption ait eu lieu depuis 23 ans, la question de leur relocalisation n'a toujours pas été résolue. Il demande aux autorités de s'impliquer pour permettre à ces familles de rentrer dans leurs droits.
Ce journal se poursuit dans la province du Kasaï oriental. Construction dans les parcelles de la société minière de Bakwanga, Miba, Mbujimayi, le gouverneur des provinces intérimaires du Kasaï oriental vient de frapper dur. Il suspend tout lotissement dans ses parcelles situées sur l'avenue Cathédrale et sur les sites Mitembela dans la commune de la Kanchi à Mbujimayi. Une décision qui ressort de la réunion du Conseil provincial de sécurité présidée par le gouverneur des provinces intérimaires lui-même. Des lotissements effectués depuis quelques temps par les autochtones appelés Bakwanga. Un dispositif sécuritaire important est observé sur place ce matin. Docteur Augustin Kayembe, gouverneur des provinces intérimaires, explique au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Tout de suite, je suspends tous les travaux entamés sur le site Mintembela. Je ne veux plus voir les gens là-bas en train de construire. Parce que ce que j'ai constaté, c'est d'une manière anarchique. Et ce sont des parcelles habitées où on a spolié de cette manière-là. Non, ça ne doit pas se faire de cette manière-là non plus. Désormais, je ne veux plus voir ou apprendre qu'il y a les gens sur ces sites-là en train de construire ou continuer à construire. Et d'ici là, on va démolir tout ce qu'on a construit. À partir de la première maison qui est juste à côté de la DRH Miba jusqu'à la dernière maison, j'apprends qu'il y en a 8. Tout ce qu'on a construit là-bas jusqu'en bas, on doit démolir.
Revenons une fois au Nord Kivu. 2 morts et 6 maisons incendiées, c'est le bilan provisoire d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la nuit de mardi à mercredi à Oicha, commune rurale située à 30 km de la ville de Beni. Une psychose règne dans la zone alors que les forces armées affirment traquer les assaillants. Marc Marofimbo nous en dit plus.
C'est vers 19h local que le quartier Mabassé, le situé dans la partie ouest de la commune rurale d'Oicha, a été attaqué par les ADF. La société civile locale dresse un bilan provisoire de 2 civils tués, 6 maisons incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Une psychose s'est installée dans les quartiers où la population a quitté les lieux pendant la nuit pour se réfugier vers le centre commercial d'Oicha. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus jusque tard dans la nuit alors que les forces armées poursuivaient les assaillants retranchés dans la forêt à l'ouest de la commune. Ce matin, l'armée accompagnée de quelques jeunes volontaires continue les fouilles autour du quartier attaqué pour retrouver les personnes portées disparues. Les porte-parole de l'armée dans la région confirment ces informations sans fournir de détails supplémentaires. Cette attaque survient seulement 4 jours après celle du quartier voisin de Mbimbi qui avait coûté la vie à 9 civils et entraîné l'incendie d'une 20aine de maisons. Mardi dans la journée, le gouverneur du Nord Kivu s'était rendu à Oicha pour évaluer la situation et apporter une assistance aux rescapés de l'attaque. Beni. Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Sécurité encore, 4 éléments Mobondo neutralisés. Tel est le bilan de l'opération de poursuite de ces éléments par les FARDC. C'était hier mardi sur la route nationale numéro 17 entre les villages Tubakita et Limete dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe. Selon le porte-parole des opérations Ngemba, ces assaillants ont tendu une embuscade à un camion qui partait vers Kwamout en provenance de Kinshasa. Le capitaine Anthony Mwalushiai explique au micro de Vanessa Kongolo Wang Kongolo.
Les assaillants Mobondo ont tendu une embuscade à un camion civil, causant la mort de 2 personnes, dont un chauffeur et un militaire, en route vers son unité. 2 autres passagers blessés ont reçu à s'échapper. Alertés, les unités des FARDC basées au village Kintsele sont rapidement intervenues, lançant une opération de ratissage qui a conduit à la neutralisation des 4 assaillants Mobondo. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone. Le commandement des FARDC affirme sa détermination à traquer sans relâche tous les éléments Mobondo qui refusent de se conformer aux directives de la réserve armée de la défense Rod en cycle. L'armée ne saurait tolérer la présence des groupes armés sémant l'insécurité et défiant l'autorité de l'État, quelle que soit leur motivation. Les FARDC appellent la population du territoire des Komunt et des environs à la vigilance et les invite à collaborer avec les forces loyalistes en dénonçant tout individu armé ou impliqué dans ces violences.
C'est parti depuis hier à Kalemi avec le processus de démobilisation des groupes armés. C'était au cours de la rencontre entre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, les représentants des groupes armés, les leaders communautaires et les autorités provinciales. Objectif, ramener une paix durable dans les Tanganyika. La coordonnatrice nationale adjointe du PDD-RCS annonce que les démobilisés reçoivent des cartes pour qu'ils bénéficient de certains projets de réinsertion. Marie-Chantal Lumba s'exprime dans cet extrait choisi par Paul Munanga.
La province du Tanganyika a lancé ce processus de paix depuis un bon bout de temps. Ils ont pu arriver à dialoguer, à convaincre et à montrer aux groupes armés qu'il y avait une autre façon de pouvoir servir le pays. Et aujourd'hui, nous sommes à l'une des étapes, celle de la démobilisation, parce que le désarmement avait déjà été fait. Et c'est avec l'appui des autorités provinciales, avec l'appui de toutes les autorités administratives, le maire de la ville, les leaders communautaires et tout le monde, chaque citoyen a un frère ou une sœur à qui il donne un message, arrêter d'utiliser les armes et de pouvoir servir le pays d'une autre façon. Déjà, plus d'une centaine des éléments des groupes armés avaient déposé les armes et nous sommes venus maintenant pour faire cet acte administratif qui est de leur remettre des cartes de démobiliser afin qu'ils puissent bénéficier de certains projets de réinsertion. Le fait qu'ils aient déjà commencé le désarmement, cela déjà montre les couleurs, qu'ils veulent un changement dans la manière que fonctionnent les groupes armés et surtout de pouvoir mettre fin à ce genre de phénomène.
Actualité internationale.
Au Mali, cela fait désormais 21 mois que l'universitaire et militant anti-corruption Clément Mamadou Dembélé est emprisonné depuis novembre 2023. Il est accusé d'avoir menacé de mort le président de la transition Assimi Goïta après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement sonore dans lequel une voix lui était attribuée. Or, une expertise a conclu qu'il ne s'agissait pas de la sienne.
L'invité.
En Mbandaka, la semaine de la foresterie communautaire s'est achevée sur une bonne note pour plusieurs communautés bénéficiaires des concessions qui leur ont été octroyées par l'État congolais. Rossi Ikanga, chargé de communication de la concession communautaire locale, a tiré profit de cette activité. Il est notre invité de ce midi. Suivons-le dans cet entretien qu'il a bien voulu accorder à Askin Zigbiatayoro.
Bonjour Monsieur Rossi Ikanga, vous venez de participer à la semaine de la foresterie communautaire à Mbandaka. Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de cette activité qui a duré presque 5 jours?
Oui, merci beaucoup. Pendant la session de la table ronde multi-acteurs provinciaux ici à Mbandaka, j'ai capitalisé beaucoup de choses par rapport aux autres self-cells. Et apparemment, ce que moi j'ai capitalisé dans les 5 jours avec les autres self-cells qui viennent d'Nkake, produisent de miel, et les autres self-cells qui viennent de Ilebo et Ndjondo, qui ont fait l'agroforesterie de cacao, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que quand je reviens dans notre self-cell, je vais faire la restitution à propos de ce que moi j'ai capitalisé sur tous les problèmes de miel que notre self-cell, qui peut aussi produire de miel et faire aussi les agroforesteries, par exemple de cacao.
Eh bien, monsieur Rossi, votre communauté est bénéficiaire des concessions forestières qui ont été octroyées sous base d'un arrêté du gouverneur de province de l'Équateur. Alors, en termes de gestion et d'exploitation, qu'en avez-vous concrètement fait?
À ce qui concerne la gestion et exploitation de notre self-cell, on a premièrement élaboré un plan simple de gestion. Nous continuons à travailler dans notre self-cell et puis nous produisons. Et dans notre self-cell, nous produisons des chikwang, des bananes plantaires, des arachides, des piments et des maïs. Et ce qu'on a fait dans notre self-cell, à la deuxième étape de la gestion et exploitation, on a construit les bureaux communautaires. On a construit maison de passage, on a construit aussi salle de réunion et nous avons fait aussi des puits d'eau et nous continuons aussi de construire l'école qui est en cours et nous avons construit aussi les postes de santé.
Mais est-ce que votre communauté a le moyen nécessaire pour bien exploiter toutes ces concessions?
Notre self-cell n'a pas vraiment de moyens. Et il y a quand même ce que nous travaillons avec des mutuelles de solidarité. Mais pour les moyens, c'est ce que nous demandons avec les partenaires et les partenaires qui puissent nous aider avec des financements, des matériels, de nous aider avec des semences de bonne qualité.
Alors, que faites-vous des produits issus de l'exploitation de toutes les concessions octroyées?
Les bénéfices que nous achetons nos produits, nous faire entrer dans les fonds de développement communautaire. Et ces bénéfices-là nous aident à réaliser quelques le travail que nous faisons pour le développement dans notre village, les écoles, les maisons de passage, tout, etc.
C'est bien beau d'avoir des concessions. Quelle est l'utilité pour l'État d'octroyer des concessions aux communautés locales?
Maintenant, l'utilité de l'État pour nous donner les CFCL, mais premièrement, l'État a donné perpétuellement les communautés. Et dans ces communautés-là, nous travaillons avec, et ce que l'État dit, disait que nous pouvons exploiter la CFCL durablement. Donc, nous ne pouvons pas exploiter comment on a exploité auparavant. Pour le moment, nous exploitons ce qu'on dit l'exploitation durable de notre CFCL d'une bonne manière. Et en plus, ce que je vais ajouter pour l'État, bénéfice de l'État de voir que quand nous exploitons la CFCL, il faut qu'il y ait des développements. Quand nous exploitons la CFCL, nous pouvons développer. Nous demandons à l'État de nous aider avec des taxes. C'est parce que ce sont des problèmes communautaires qu'il peut diminuer des taxes, il peut nous aider avec des permis, des coupes communautaires pour faire d'autres exploitations. Des produits forestiers non lignés, c'est ça ce que nous demandons au l'État comme recommandation. Merci.
Monsieur Rossi Kanga, je vous remercie.
Merci la Radio Okapi pour l'opportunité.
Vous avez suivi notre invité parler à plusieurs reprises des CFCL. Il s'agit simplement de l'abréviation des concessions forestières des communautés locales. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Lievin Mwinga et Alain Rung et mise en onde par Alain Goy. Vous pouvez retrouver ce journal sur toutes nos plateformes digitales et dans notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la radio de la paix.